Elles s'appellent Roux, Jules, Lexi, Maddy, Kat, Cassie. Ils s'appellent Nate, Mackay, Fez. Il ou elle, qu'importe d'ailleurs, leur point commun, faire partie de la génération Z, paraît-il. Alors Z comme quoi d'ailleurs? Comme Zorro peut-être? Chercher la justice à tout prix dans un monde où il faut se faire sa place. Roux sort à peine de désintox et tente de revenir à la vie. Jules apparaît-elle une bouée de secours, un être symbolisant cet espoir d'amour? Jules est née garçon, elle est aujourd'hui une adolescente magnifique, cheveux longs sur un corps tout aussi longiligne, vêtue de jupes courtes et petits débardeurs.
À 13 ans, elle a commencé à faire sa transition. À 16 ans, elle était devenue un peu salope. Et tous ses mecs étaient pareils. Viril, blanc, marié, fiancé ou dans une relation depuis longtemps. Et toujours, toujours.
Je veux dire que je suis à 100% hétéro.
Bienvenue dans Sériland, zoom sur les nouveaux épisodes de la série Euphoria, à voir absolument sur OCS et sur ces autres fictions qui ont choisi d'évoquer la représentation des personnes LGBT+. Sériland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité. Je m'appelle Eva et je suis heureuse, heureuse de voir à quel point les séries posent un regard si juste sur notre société et à quel point elles peuvent aussi devenir un outil pédagogique, critique, des œuvres capables de nourrir notre réflexion sur des sujets tels que le genre. À l'occasion de deux nouveaux épisodes de l'excellente série Euphoria sur OCS, on a eu envie, avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, notre amie Charlotte Blum, journaliste spécialisée en séries, et notre voix Patrick, de regarder précisément comment les fictions s'emparent de cette question du genre. Si j'utilise le terme LGBT+, c'est parce qu'il s'agit du sigle qui, à mon sens en tout cas, évoque le mieux notre sujet, à savoir la représentation des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, le plus désignant les autres identités sexuelles ou de genre. Est-ce que chacun et chacune trouve sa place dans les séries? Est-ce que chacun et chacune se sent représenté dans ces fictions qui nous racontent notre quotidien? Pour tenter de répondre à ces questions, il nous fallait un féru de série et quelqu'un maîtrisant parfaitement cette thématique. Il s'appelle Romain Burel, il est directeur de la rédaction de l'excellent magazine Têtu et il est notre invité expert. Au programme de cet épisode également, la série événement de Canal+, The Good Lord Bird, et les coups de cœur, les crushs de Charlotte Blum et Romain Burel.
Sériland, épisode 38. La série de la semaine.
Bonjour Charlotte Blum.
Bonjour Eva.
Ravie de vous retrouver pour évoquer une série que vous aimez particulièrement, Euphoria en l'occurrence.
C'est un peu amours de ma vie.
Ah
non,
bah voilà.
Tu vois, je dis rien. Par contre, quelle magnifique intro musicale.
On va parler de la musique.
On est bercé.
On va parler de la musique. Et bonjour Romain Burel.
Bonjour.
Merci infiniment de nous avoir rejoints. Euphoria, en tout cas pour moi, c'est une série coup de poing. Il s'agit de l'adaptation d'une fiction israélienne. La version américaine est une création de Sam Levinson, produite par le rappeur Drake. Le pitch, alors on ne sera peut-être pas tous d'accord, mais je vais essayer de le faire d'une façon globale, on va dire. C'est le quotidien de lycéens à travers leurs différentes expériences existentielles. Il est question d'amitié, d'amour, de recherche identitaire, de questionnement sur la mort, sur l'espoir aussi. Alors, il y a du sexe, beaucoup, de l'alcool, pas mal aussi, de la drogue, beaucoup de drogue. Mais réduire Euphoria à cela serait une erreur, parce que rarement le sexisme, la notion de consentement, le culte du corps ou encore la toxicité masculine n'ont été aussi bien traités à mon sens. Une série portée par une esthétique rare, je trouve pas d'autres mots, et une bande originale qui vous fait triper, Charlotte, j'en suis persuadée.
Non mais c'est fou, je l'écoute en boucle, mais en boucle cette
la bande originale.
Ouais.
Alors, en une phrase, Charlotte, quel argument pour conseiller aux gens de regarder Euphoria?
Alors en fait, moi qui ai plus de 40 ans, j'ai jamais vu l'adolescence comme ça. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans un monde qui m'est complètement fermé, qui m'est complètement inconnu aujourd'hui. Enfin, je suis loin de tout ça. Et la façon dont on nous raconte ces adolescents, sans filtre, sans tabou, sans aucun jugement sur les personnages, sur ce qu'ils ressentent et tout, je trouve ça absolument magnifique. Et puis effectivement, esthétiquement, Sam Levinson, c'est un génie.
On est d'accord.
C'est incroyable.
Romain Burel, un argument pour regarder cette série, si vous l'avez aimé.
Ouais, non, j'adore Euphoria. Il y a une vieille chanson des Who qui s'appelle « The kids are all right ». Les enfants vont bien, les enfants vont pas bien. Les jeunes vont pas bien, les ados américains ne vont pas bien, les ados français vont pas super bien non plus, je pense. Et on permet à des mondes qui ne se croisent pas souvent, Charles disait, l'accessibilité à cette jeunesse qu'on n'a pas tous, qu'on perçoit un peu sur les réseaux sociaux, et encore, on n'utilise pas les mêmes. aujourd'hui, mais c'est une façon de voir à quel point pèse sur cette jeunesse énormément de difficultés, savoir se situer, de mal-être, de dépression, de perte de repères, et d'envie d'autre chose en fait, et de réécrire une histoire qui n'existe pas aujourd'hui, et notamment sur le personnage d'Hunter Schaeffer, c'est vraiment...
Qui joue Jules, oui.
Ouais, qui joue Jules, cette jeune ado trans, il y a quelque chose de bouleversant à essayer de créer un chemin entre une masculinité de footballeur américain ultra toxique, c'est le mot, hein, un virilisme qu'on connaît bien en France aussi. Hein.
Enfin,
il faudrait pas croire
que c'est
l'apanage
des
high school américains et que ça se passe comme ça que sur leur campus. C'est quelque chose qui existe totalement chez nous aussi, et c'est ce qui rend la série d'ailleurs aussi intéressante. Moi, elle m'évoque un peu une série qui avait déjà un peu abordé ça il y a une dizaine d'années, qui est Skins, en fait. Déjà, on avait pris conscience de cette jeunesse qui va pas bien, mais on n'était pas allé aussi loin dans la noirceur, je crois.
C'est vrai, c'est vrai. Et bien, pourtant, c'est marrant parce que je pense qu'on a des points communs dans cette analyse d'Euphoria, mais je me différencie un petit peu de vous sur un point. Moi, j'ai été emportée par un torrent d'émotions en regardant cette fiction, et bizarrement, ça a réveillé des questionnements d'adolescente que je fus. Parce que je trouve qu'il y a une forme d'universalité à la fois dans le temps et dans l'espace, si on parle des États-Unis, mais comme vous disiez, Romain, en France. Je trouve qu'il y a des thèmes qui sont récurrents et que le mal-être, peut-être qu'on l'a oublié, nous, mais on l'a vécu, ce mal-être d'adolescent, à mon sens.
Et
Romain.
Puis surtout, c'est moi, je me projette totalement aussi dans ces personnages-là, mais je crois qu'on était moins capable d'analyser
complètement
ce qui nous arrivait.
Et le monde, voilà. Tout à fait.
Ce qui est assez brillant dans la série, c'est que le personnage de Zendaya, par exemple, est totalement incapable de vous expliquer ce qui ne va pas chez les hommes, ce qu'elle ne veut plus. Il y a une séquence qui a vachement fait buzzer sur les réseaux sociaux, qui est la fameuse séquence de la dick pic et de la dick pic consentie, qui, la dick pic consentie, n'existe pas.
À vous de traduire dick pic, hein. Bien fait pour vous, Romain.
C'est cette tendance qu'ont les garçons à envoyer une photo de leur appareil génital très facilement.
J'adore comme vous le dites.
Parfois aux jeunes filles, mais aussi parfois aux garçons. Et en l'occurrence, c'est cette notion que, voilà, y a d'où vient cette fierté? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des garçons? Pourquoi ils se sentent obligés de le faire? Comment les filles reçoivent ces choses qu'elles subissent? Elles peuvent être blasées, en plus, ce qui est assez le cas du personnage de Zendaya dans la série, mais de dire, voilà, quoi, bon, encore une.
Oui, c'est ça, exactement.
Et elle l'analyse parfaitement, mais... La masculinité est aussi très très bien traitée de l'intérieur aussi, je trouve.
Oui, parce qu'on rentre aussi dans la tête des personnages.
Exactement.
À chaque fois, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. L'esthétisme de la série et la réalisation à coup de flashback qui sont totalement maîtrisés, moi, m'a bluffé et participe au coup de cœur que j'ai eu pour Euphoria. Et mais je crois que dans plusieurs années, quand je repenserai à Euphoria, me reviendra d'abord en mémoire la prestation des comédiennes et comédiens, à commencer par Zendaya avec ses larmes de paillettes sur les joues, et Hunter Schaeffer, si forte et si fragile à la fois dans ce rôle de Jules, je trouve. En tout cas,
première fois qu'elle joue,
exactement, Charlotte. Et puis je me souviendrai sans doute aussi à quel point donc la thématique du sexe et du genre est si justement abordée. Existe enfin la pensée un peu binaire homme-femme. D'ailleurs, nouvel extrait, Kat et Maddy parlent d'hétérosexualité et d'homosexualité.
Tu crois que les mecs sont 60% hétéros ou 60% gays?
Non, parce que comme tout le monde le sait, il y a des bi, des transgenres et des asexuels. La sexualité, c'est tout un spectre.
Ouais, je suis d'accord.
Pourquoi tu me demandes ça?
Oh, comme ça. Tu crois que les mecs hétéros regardent des vidéos porno gays?
Non, pas s'ils sont à 100% hétéros.
Tu viens de dire que la sexualité était un spectre.
Oui, mais à chaque bout du spectre, il y a les gays et les hétéros.
Oh, ça me fait gerber.
Romain, c'est Romain Burel, c'est exactement ce que vous racontiez, c'est à savoir qu'ils arrivent à analyser en fait les notions de sexualité, les notions de genre, peut-être comme nous on le faisait pas quand on était ado, hein, je pense qu'on n'avait pas ce côté intellect en fait de l'analyse de ce qui nous arrivait en gros. Est-ce que vous trouvez que les questions sur le genre sont bien posées dans Euphoria, Romain?
Pas forcément bien posées, par exemple là on confond un peu, moi je sépare assez facilement le sexe et le genre en fait,
ouais.
Concrètement je pense que c'est pas les mêmes questionnements et qu'à un moment donné, d'ailleurs une personne trans peut être hétérosexuelle ou homosexuelle et que c'est, je décorrèle ça assez facilement, c'est les mêmes combats, On a le même ennemi désigné qui est ce fameux patriarcat hétérosexuel qu'on aimerait tous abattre. Mais je les sépare assez facilement. Par contre, ce qui est génial, c'est que quand moi j'ai grandi, on parlait de ramener à son adolescence. Oui. Oh là là, moi j'aurais adoré avoir tout ce verbiage d'outils pour pouvoir ce nuancier absolument génial qu'on a aujourd'hui et que met parfaitement en scène la série. Qu'on n'avait pas, il y avait une injonction à être soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire les deux pôles qui sont 100% aujourd'hui d'un côté que de l'autre, bah en fait c'était les deux frontières étaient séparées, il y avait les hétéros d'un côté, les homos de l'autre, les bisexuels, je vous raconte même pas comme on les voyait comme des Judas posés à la frontière en mode mais qui sont ces gens, donc c'est
ça
pas de quel
pas,
côté,
en fait.
Bien sûr, mais encore aujourd'hui j'ai parfois des grands débats avec des gens qui m'expliquent que ça n'existe pas. La bisexualité existe, messieurs dames. La série est vraiment brillante là-dessus. C'est vrai qu'elle renvoie à ce moment de l'adolescence. On se dit, nous, comment je me suis construit, en fait, en travers deux identités qui n'y en avait pas d'autres. Plus de 50% des jeunes américains ne se reconnaissent pas dans les étiquettes homo ou hétéro. Et plus de 70% ne se reconnaissent pas dans l'hétérosexualité telle qu'on nous la représente. C'est énorme, Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'un jeune sur dix ne se reconnaît pas dans ce qu'on appelle l'hétérosexualité. Ouais. Il s'estime être autre chose que ça.
Charlotte Blum, est-ce que vous avez l'impression que cette question du genre, c'est le sujet principal de la série, ou au fond, mais de façon presque paradoxale, on s'en fout un peu, c'est pas une question?
Alors, ce qui est brillant, effectivement, c'est que on a ce personnage trans, Jules, au milieu d'une galerie de personnages qu'on ne juge pas, son corps est représenté de la même façon que les autres corps. Son corps n'est pas mis entre parenthèses. Il n'est pas caché, elle est nue, elle s'aime, en fait. Elle a appris à s'aimer. Elle est, effectivement, comme disait Romain, il y a un chemin à traverser. Elle est quasiment au bout de ce chemin. Enfin, on l'a vécu avec elle. On nous raconte son rapport avec son père, qui est hyper sain. Son père qui l'accepte comme elle est, qui l'a aidé à devenir qui elle est. Voilà, ce rapport est magnifique, père-fille. C'est sublime. Mais en fait, par rapport à cette forme d'universalité, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que Sam Levinson, dans cette série, il se raconte lui. Il se raconte lui en tant qu'homme cisgenre hétéro, mais qui est passé par l'addiction. Et il utilise ce spectre-là, celui de l'addiction, pour se poser des questions sur toutes les douleurs et tout ce qu'on doit combattre, affronter, affirmer, tout ce sur quoi on nous questionne, on nous remet en question quand on est ado. Donc lui, ça a été l'addiction. Il a été balancé en cure de désintox par ses parents. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé et il sait ce que ça veut dire de se poser une question et d'être dans le noir, en fait. Et cette série très esthétique, elle met de la lumière dans toutes ces ténèbres-là. Et elle dit, en fait, à chaque personnage, c'est pas grave. Oui. Sois qui tu es, c'est pas grave. Arrête de croire que tu es hors norme, pas voulu, qu'être différent, c'est mal. Toute cette série, elle raconte ça. Effectivement, la question du genre, c'est une des questions. La question de la sexualité, c'est une des questions. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet tout le monde sur un pied d'égalité.
En vous écoutant, je prends conscience aussi qu'un des mots principaux, c'est le mot dépendance. La dépendance affective à l'égard d'un homme ou d'un père ou d'une mère. La dépendance à la drogue, la dépendance à l'alcool, la dépendance aux autres, la dépendance au regard de l'autre, la dépendance au portable qui est omniprésent, évidemment, dans la série. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je crois qu'on le partage tous les trois pour cette série. Charlotte, la Covid a eu raison de la saison 2 qui sera, on l'espère, tournée dans quelques semaines. Mais il y a deux nouveaux épisodes qui sont disponibles sur OCS. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux épisodes-là?
Moi, déjà, ce que je pense de leur existence, parce que je trouve ça formidable. Sam Levinson, on sent que c'est un mec en renaissance complète. Il a aussi un film qui arrive sur Netflix. Et en fait, quand la Covid est arrivée, il s'est pas dit, moi, en tant qu'auteur, j'ai besoin d'exister. Il s'est dit, mon équipe est au chômage, qu'est-ce qu'on fait? Et il a écrit des épisodes pour sauver son équipe du chômage. Je trouve ça déjà extraordinaire. Ça montre la bienveillance et l'humanité de ce mec. Et il a écrit, alors on a vu pour le moment l'épisode sur Rook, un épisode en huis clos, qui est extrêmement bavard et pas du tout virtuose esthétiquement pour le coup, qui est un épisode posé avec deux personnages qui dialoguent et qui désamorce un peu tout ce qu'on s'est raconté dans la saison 1, qui apaise vachement, c'est un bilan.
Alors moi, je vais vous dire une chose, j'ai pris une énorme claque avec cet épisode. Effectivement, se tourner dans un café, une discussion entre Roux et Ali. Donc Ali, c'est un ancien toxico qui a décidé un peu de la prendre sous son aile. Esthétiquement, moi j'ai trouvé que j'étais plongée dans un tableau de Hopper. Alors je ne sais pas si ça a été voulu, j'ai l'impression quand même, parce que bon voilà, les dialogues sont absolument époustouflants. Petit extrait en version française, je vous en supplie, ne m'engueulez pas tous les deux.
Tu dois créer un nouveau dieu. Ou des nouveaux dieux. Ou ce que tu veux, mais il est impératif que tu crois en quelque chose de bien plus grand que toi. Ok? Et ça peut pas être l'océan, ta chanson préférée. Et ça peut pas être un mouvement sociétal, des gens, ni même des mots. Tu dois croire en la poésie. Ouais, parce que tout le reste finira par te décevoir. Y compris toi-même. Tu me suis ? T'en es là, Roux. T'es malade. Tout ton être est au bord de l'effondrement. La toxico qui sommeille en toi essaie de te fourguer le même poison qui t'a rendu malade au début. Et si tu continues comme ça, tu pourriras de l'intérieur et tu finiras par t'écrouler et mourir. Ton seul espoir, c'est une révolution. Une véritable révolution, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Tu peux pas faire les choses à moitié.
Romain Burel, croire en la poésie, ça pourrait être presque être un mantra, non ?
Oui, je crois que c'en est un d'ailleurs, et que Levinson se le raconte à lui-même. Je pense qu'il se parle à lui-même à ce moment-là, qu'il s'adresse à ses problématiques. Et croire en la poésie, quand on voit Euphoria, on voit qu'il y en a énormément, en fait. C'est une série à l'esthétique très noire, mais en même temps, qui est régulièrement percée par la lumière.
Ah, c'est incroyable. La lumière de cette série, elle est incroyable. Je ne sais pas qui est le chef photo. On rentre dans des trucs un peu techniques et un peu du détail, mais enfin, c'est quand même remarquable, absolument remarquable.
Moi, la lumière, je la vois surtout dans cette histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour, oui, qui s'écrit en se posant des questions sur qui elles sont et sur ce qu'elles sont l'une pour l'autre. Mais c'est ce qui rend la série vraiment très très belle, en fait. Je trouve que c'est de voir comment elles vont dépasser leurs questionnements pour, en fin de compte, être dans quelque chose qui est vraiment assez pur, quoi.
Bah d'ailleurs, là, le dialogue est sur la drogue. Ouais. Ali, elle parle de son addiction, mais dans cet épisode, Roux, elle est malade d'amour. Dans cet épisode, la blessure profonde de Roux n'est plus la drogue, c'est l'absence de Jules. Et vraiment, là, c'est devenu une vraie histoire d'amour, cette histoire-là.
Alors, c'est vraiment, on vous le répète, un épisode, le 9e, une heure d'un simple dialogue. Alors, je dis simple, pas au sens péjoratif, mais un dialogue entre deux personnes dans un café. Et moi, j'ai trouvé que l'heure, elle était passée d'une rapidité absolue et que c'était incroyable. Un moment incroyable, suspendu, qui permettait en plus de comprendre plein de choses des épisodes précédents. On se remémore la série à travers ce dialogue entre ces deux personnages.
Qui parle aussi de l'Amérique, qui parle de politique, bien qui sûr. Parle de Black Lives Matter. C'est-à-dire qu'en une heure, il nous raconte une saison, quoi. En fait, c'est tellement bien écrit, c'est tellement un loss. Et malgré tout, énormément d'émotions. Il y a des plans juste sur le visage de Roux, de Zendaya.
Oui, exactement.
Elle fait rien, elle dit rien, et il y a tout qui passe d'un coup. C'est extraordinaire.
Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
Alors, à l'occasion de ces nouveaux épisodes de Euphoria, j'avais envie de regarder plus précisément comment étaient représentés les LGBT+ dans les séries. En 2004, débarquaient sur nos écrans Beth et Tina, entre autres. Premier épisode, première scène.
T'es en pleine ovulation.
Oui, en pleine ovulation.
On va faire un bébé.
Notre petit bébé.
Si t'allais t'habiller, je te déposerai en allant au boulot.
C'était il y a 16 ans, Romain Burel, on découvrait quoi comme série ?
The L Word.
Exactement. 6 saisons sont disponibles sur Amazon Prime Video. Ça veut dire quoi ? The L Word.
Les garçons avaient eu déjà un peu leur moment à la télévision, dans les séries. Il y avait une série anglaise qui est sortie en 99 qui s'appelait Queer as Folk et qui a été adaptée par Showtime aux États-Unis, qui a eu droit à 5 saisons. Donc il y a eu un moment gay dans les séries françaises et dans les séries françaises et américaines et européennes qui nous a permis un peu d'exister et de dire en fait c'est incroyable, on n'est pas obligé d'être simplement le meilleur ami.
Oui.
D'un personnage hétéro. C'est-à-dire, carrément, il y a des histoires à raconter sur des personnes LGBT. Incroyable. Voilà. C'était une série qui faisait un peu exister les lesbiennes, mais pas beaucoup, quoi. Et donc, forcément, on se posait la question de savoir qui allait enfin se pencher sur la communauté lesbienne et bisexuelle. Et The L Word l'a fait. Alors, avec aujourd'hui des tas de qualités et de défauts qu'on pourrait voir à cette série, mais ça faisait un bien fou, en fait, de les voir débarquer.
Ça a permis de gagner en visibilité.
En visibilité, je pense que c'est vraiment important. Je pense que la qualité des personnages féminins et notamment lesbiennes et bisexuelles a réellement changé après cette série. On s'est dit, il y a des histoires, il y en a plein. Là, on vous parle déjà de homoparentalité, en fait. On est en plein débat sur la PMA.
C'est pour ça que j'ai pris cet extrait, bien sûr.
En France, on voit que c'est des questions qui datent. La série, elle a 16 ans, c'est pas d'aujourd'hui que les homosexuels font des enfants.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que la créatrice, Aileen Shaken, a été étonnée de l'accueil critique. Et elle disait d'ailleurs à l'époque, écoutez bien, je veux faire bouger les gens à un niveau profond, mais je n'endosserai pas le manteau de la responsabilité sociale. Ce n'est pas compatible avec le divertissement. Je rejette l'idée que la télévision populaire est un médium politique. politique. Je suis politique dans ma vie, mais je fais une série mélodramatique. Je ne suis pas une missionnaire culturelle.
Elle ne pouvait pas avoir plus tort.
Non, mais d'accord.
Non, vraiment. Moi, ouais. je prends souvent cet exemple. Ça m'arrive régulièrement de parler à des chaînes pour essayer de les secouer un peu, en France notamment, et leur dire voilà, vous ne faites pas assez sur ces questions-là, bougez-vous, etc. Et je prends un tweet d'un jeune garçon trans qui raconte une discussion avec, à travers des textos avec sa maman. Sa maman lui dit tiens, j'ai regardé Plus belle la vie. Il y a un personnage transgenre dans la série. Est-ce que tu y as pensé ? Et là, le garçon a tout lâché.
C'était la première fois possible.
Je ne sais pas si vous imaginez le pouvoir incroyable de d'une série télé qui permet de créer des discussions et qui permet surtout à une mère
de pouvoir parler à son enfant.
De tendre la main à son enfant et de lui dire vas-y, je pense, est-ce que tu. Voilà, viens vers moi en fait. Je fais le chemin, le maximum de chemin que je peux faire vers toi. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est, la création permet ça. La responsabilité qu'ont les chaînes et les scénaristes est incroyable sur ces questions-là. C'est pour ça que vraiment, je pense que nous en France, on a un vrai et gros et inquiétant retard. Mais que voilà, c'est, ce pouvoir-là, il est entre vos mains, messieurs et mesdames les scénaristes. Et donc bougez-vous, quoi.
Vous avez été marquée par cette série, Charlotte ?
Par The L Word. Moi, je pense qu'elle a eu la même fonction chez les adultes qu'à Euphoria en ce moment même chez les ados. Il y a plein de femmes qui ont flashé sur des personnages du L Word et qui ont commencé à s'interroger alors qu'elles s'étaient rangées toutes seules parce que la société dit mets-toi dans une case le plus vite possible et reste-y. Elles s'étaient mises dans la case hétérosexuelle et je pense que ça a vraiment, vraiment, vraiment fait bouger les choses. Un personnage comme Shane qui est une sorte de fantasme sur pattes, elle est là pour ça. C'est la fille la plus sexy, la plus belle du monde. On est plein de filles à avoir regardé la série en disant oh, mais attends. Mais en fait, je me suis complètement plantée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais en fait, je crois bien que je suis peut-être à la frontière entre les deux. J'ai plus envie d'être dans cette case. Je me casse de cette case le plus vite possible. Et elle a fait un travail pédagogique, un travail de libération sur des adultes. Donc, c'est hyper important parler à des adolescents. Mais en fait, il faut parler à tout le monde parce qu'on ne sait pas. Comme dit Romain, tant qu'on ne nous tend pas la main et qu'on ne nous dit pas « vas-y », on n'y va pas.
Il y a des tas de féminités différentes, si je peux me permettre, dans cette série. Ce qu'on voit rarement, en fait. Oui. On a souvent des stéréotypes de femmes. Vraiment, elles sont rarement... si jamais elle a un flingue et un badge à la ceinture, elle est un peu masculine. Ouais, si jamais elle est avocate, forcément, elle met des tailleurs, elle est très féminine. Et en fait, dans cette série, on voit des tas de nuances de féminité différentes. C'est ce qui faisait un bien fou.
Alors, c'était en 2004. La série abordait donc la notion d'identité de genre. Mais les séries, elles n'ont pas attendu les années 2000 pour se pencher sur cette question. Si, je vous jure. Vous risquez d'être surpris. Notre série voir Clémence Olivier nous raconte tout.
L'aparté de Clémence.
On le sait peu, mais le premier personnage transgenre récurrent est apparu dans une série il y a 44 ans. C'était en 1977, dans All That Glitters, Tout ce qui brille, une série américaine diffusée à l'époque sur plusieurs chaînes de télévision locales. Et c'est Linda Gray qui incarnait ce personnage. Ça ne vous dit rien ? Attendez, je vous donne un indice. Et oui, Linda Gray, c'est l'une des actrices phares de la série Dallas. Elle est célèbre pour avoir joué pendant 10 ans le rôle de Sue Ellen, la femme un brin alcoolique de l'impitoyable JR. Mais comment s'est-elle retrouvée à jouer ce personnage transgenre ? C'est ce que je vais vous raconter. En 1977, le monde ne connaît pas encore la famille Ewing et Linda Gray n'est pas vraiment connue des Américains. Elle a joué dans des publicités, quelques films, mais rien de particulièrement notable. Alors quand elle apprend que Norman Lear, un producteur américain réputé pour ses comédies, lance une nouvelle série, elle tente sa chance. D'autant que le scénario l'emballe, je vous donne le pitch, All That Glitters, ça raconte le quotidien de plusieurs cadres d'une entreprise, sauf que l'intrigue se déroule dans un monde où les femmes occupent tous les postes de pouvoir. Les hommes, eux, sont soit des secrétaires, soit des hommes au foyer. Et Linda Gray, elle adore ce renversement des genres. Alors elle se donne à fond, et ça fonctionne. La comédienne est retenue pour incarner une mannequin transgenre appelée Linda. Bon, ce n'est pas le rôle-titre, mais c'est un rôle récurrent. Alors pour être certaine de ne pas tomber dans la caricature et interpréter au mieux son personnage, elle rencontre une femme transgenre qui lui raconte son quotidien. En avril 1977, on la découvre donc dans la peau de Linda Mirkland au générique de All That Glitters. Le pitch est novateur, les acteurs impliqués, mais être en avance sur son temps n'est pas toujours gage de succès. De l'autre côté de l'écran, les téléspectateurs n'adhèrent pas, enfin les hommes surtout. Quant aux féministes, elles craignent que la satire ne soit pas vraiment comprise. Mais c'est surtout les vannes ratées et l'écriture qui sont critiquées. Résultat, les audiences dégringolent vite. Et après 13 semaines à l'antenne et 65 épisodes, la série est tout simplement annulée. Pour Linda, c'est une déception, c'est sûr. Mais entre-temps, elle a commencé le tournage d'une autre série. Une fiction qui dépeint la vie de deux familles rivales au Texas et qui fera d'elle une star. Dallas, vous l'avez compris. Quant à Norman Lear, le créateur de All That Glitters, il peut tout de même se targuer d'avoir ouvert la voie à la représentation des personnes transgenres sur le petit écran. Dans une interview donnée en 2015 au Windy City Times, un journal consacré à la communauté LGBT+ de Chicago, une comédienne célèbre le comparera d'ailleurs à un Elon Musk de la télévision, tant elle l'estime avant-gardiste. Cette comédienne, c'est Linda Gray.
Je ne connaissais absolument pas cette série, All That Glitters, qui est très difficile à trouver parce qu'elle n'est plus, évidemment pas sur les plateformes. Mais il faudra peut-être fouiller un peu dans les internets, comme on dit, pour en avoir un aperçu. Est-ce que vous connaissiez cette série, Romain ?
Non, je ne la connaissais pas du tout.
Et Charlotte ?
Mais non. Et pour une fois que j'entends parler d'une série avant ma naissance, ça fait plaisir. Non, alors... mais 1977, attends, c'est incroyable.
Oui, mais c'est très moche ce que vous venez de faire. On va passer à la suite, voilà. Parmi les séries qui s'emparent de la représentation des LGBT+, il y en a une qui m'a fait hurler de rire, tout en provoquant aussi quelques crises de larmes, c'est la série australienne Please Like Me sur Netflix. Alors, le propos est moins politique que dans les autres séries que nous venons d'évoquer, mais je trouve assez intéressant la légèreté apparente avec laquelle on suit la vie de Josh, 21 ans, qui découvre son homosexualité, conversation avec son meilleur ami.
I've been doing some googling.
Yeah, of course, I've been doing googling too, okay? And the more I learn, the less I like.
I just want to make sure that you are emotionally prepared.
I'm emotionally prepared.
Do you think that he is going to want to put something in your bum?
No, surely not tonight. I mean...
You've touched my bum in the bath once. It hurt.
God, I just really think I'm going to miss vaginas. They make so much sense, Tom, you know? So nifty.
Charlotte, vous voyez, vous riez à Please Like Me.
Non, mais du coup, j'en ai rattrapé hier. Je me suis dit, allez, j'y retourne parce qu'en fait, je l'ai regardée. Ben, elle est vieille, hein, cette série. Oui. Je l'ai regardée il y a des années et j'ai détesté ce personnage que je trouvais en fait misérable, un peu antipathique, sa façon de marcher, ses cheveux. Enfin, je sais pas, j'ai fait un blocage en fait sur le perso. Et donc hier, je l'ai regardée avec mon regard qui a vu plein de séries depuis et qui a aimé beaucoup de personnages un peu désagréables. Et je l'ai adoré en fait. Effectivement, il est très 2.0, quoi. Oui. Il a été cherché sur Google. Il y a un guide qui existe quelque part sur « Ah ben en fait, je suis gay, alors comment ça marche? Je vais devoir coucher avec un garçon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bon. Et il y a beaucoup d'humour. Et alors, je suis pas allée au bout, donc je peux pas juger. Mais en tout cas, son rapport avec son coming out à ses parents, qui bon, s'en foutent complètement en fait, est très doux. Elle est réconfortante, quoi.
Romain ?
Je sais pas si elle est réaliste. Mais
moi, c'est une de mes séries préférées.
Ah, on est d'accord.
D'abord, parce qu'on est sur un personnage qui est une espèce de Woody Allen homosexuel, c'est-à-dire vraiment torturé, qui dit lui-même qu'il ressemble, il a 20 ans, mais il ressemble à un bébé
un
de 50
vieux,
ans.
Un bébé de 50 ans, exactement.
Et qui a pas beaucoup de sex appeal, mais qui a, voilà, un garçon qui rentre dans sa vie. Le premier épisode s'ouvre sur cette petite
la rupture avec sa copine.
Qui lui dit écoute, je pense qu'on devrait se séparer. D'abord, parce qu'on s'est éloigné l'un de l'autre, et aussi parce que quand même, t'es gay. Et il lui dit, mais pas du tout. Et en fait, un peu si. Et ça, c'est très bien vu parce que parfois, et moi, ça a été mon cas notamment, c'est pour ça que ça me parle beaucoup, c'est que parfois, votre entourage sait mieux qui vous êtes que vous-même. Et cette série parle beaucoup de ça. Je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que, Eva, quand vous dites que c'est pas une série politique. Elle est politique par moment et d'une manière assez forte. Il y a une grand-mère très, très catho qui va à l'église tous les dimanches, qui veut absolument que son petit-fils vienne avec elle à l'église. Et puis, qui entend le prêtre dire que l'homosexualité est un péché, machin. À un moment donné, il y a une scène absolument bouleversante où elle se lève dans l'église et elle regarde le prêtre. Elle dit, moi, j'ai mon petit-fils. Et ce que me demande Dieu, c'est d'aimer les uns les autres. Je vais m'arrêter à là et le reste, ça ne m'intéresse pas. Dans une Australie très, très marquée par la religion, etc., d'avoir ce genre de propos, moi, je la trouve très politique, je la trouve touchante, je la trouve malaisante. Parfois, elle ose le malaise. C'est-à-dire, en fait, on a souvent des séries où, voilà, il faut être très, très happy, etc. C'est une autre représentation de l'homosexualité aussi. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de Courage Folk rapidement. C'est-à-dire que les homosexuels, forcément bien foutus, forcément malins, qu'on retrouve un peu dans des séries même plus récentes, dans Looking, on a ça un peu quand ils sont tous très très beaux, c'est un peu humiliant. Oui, oui. Bah dans Please Like Me, on a un garçon qui assume un peu de ne pas être un premier prix de beauté. Et merde, quoi, ça fait du bien. Et en plus, il arrive à avoir des boyfriends qui sont plutôt très sexy.
Ah bah donc... le premier, pardon, il est très très beau quand
on
même.
Est d'accord, voilà.
On est d'accord. Bon. Alors, on a parlé un tout petit peu des séries françaises, on va y revenir. Romain, vous disiez que c'est vrai qu'on était un peu en retard. Mais elles sont quand même pas en reste hein, sur cette question de la sexualité. Rappelez-vous, en 2005... Happy girl, happy boy. Oui, je sais, Charlotte, vous préférez la bande originale de Euphoria et vous avez
je
raison.
Je n'ai rien dit, j'ai regardé Romain danser.
Mais on découvrait en France, en 2005, Clara Scheller sur France 2 en prime time. Clara, incarnée par Mélanie Douté dans la première saison, qui vit en colocation avec JP, alias Frédéric Diefenthal, homosexuel. Romain, est-ce que vous vous souvenez de cette série ?
Je ne sais pas que je m'en souviens, c'est que j'en garde un souvenir ému. Et évidemment, on est sur un rôle de meilleur ami gay, encore une fois. Mais
c'est,
bon,
vrai.
La série,
non, c'est vrai, c'est vrai.
Elle ouais. a 16 ans, mais les gens s'en souviennent encore. Moi, Clara Scheller, on a des lecteurs qui nous en parlent encore aujourd'hui. Ça prouve une chose, ça prouve que depuis, la télé, les chaînes, on va dire, traditionnelles, ne se sont pas saisies vraiment de ce sujet-là, et qu'en fait, on a un déficit de représentation et de visibilité. Alors, on parlait tout à l'heure de Plus belle la vie, etc. Oui, heureusement qu'il y a des personnages comme celui de Thomas, etc., qui existent. Dans des séries d'Access, etc. Mais dans des séries un peu plus ambitieuses, plus de qualité, on les cherche un peu comme à la loupe quand les personnages LGBT, c'est pas normal. Ce qui était vraiment cool, c'est que effectivement dans le sillage de Queer as Folk, de The L World, à un moment donné la France se pose la question et arrive à créer une série en deux saisons qui est Clara Scheller, qui permet un peu de voir ce que c'est que l'homoparentalité, la bisexualité, parler aussi des femmes, de leur rapport aux homosexuels, ouais. C'est-à-dire ces hommes qui sont dans leur vie, qui ne sont pas forcément des menaces, mais aussi avec qui on peut flirter d'un côté comme de l'autre et finalement se demander un peu aussi ce positionnement, il est difficile de savoir en fait à quel moment t'es un ami, t'es l'homme le plus proche de moi, t'es le garçon qui est le plus important dans ma vie, mais en même temps on est dans une relation qui est absolument et totalement platonique. Et ça c'était vraiment intéressant. Moi j'espère que France 2 se bouge un peu et nous fasse un Clara Scheller 3.0.
Ah, ça serait très bien. Charlotte, vous vous souvenez de Clara Scheller ou pas?
Alors
du
moi,
tout
moi je me souviens pas du tout de Clara Scheller, mais par contre ce que je constate en y réfléchissant, c'est qu'on est à l'envers de l'Amérique, c'est-à-dire que nos séries de câbles invisibilise beaucoup plus la communauté LGBT que nos séries de chaînes hertziennes. On est complètement à l'envers, mais ça c'est nous, hein, c'est les Français, on marche sur la tête. Mais c'est bizarre en fait, plus on va sur de la niche, plus on est hétérosexuel chez nous, j'ai l'impression.
Exactement.
Moi, c'est possible.
Si je peux me permettre, oui. On fait un petit barème une fois par an à Tétu, on regarde un peu les séries, etc. Une chaîne comme TF1, bon, elle donne pas la visibilité que moi je souhaiterais à tous les personnages LGBT, mais elle s'y met, et elle s'y met depuis longtemps. Moi, j'ai une conversation sur l'homosexualité grâce à une famille formidable, une série de TF1, et c'est pas d'aujourd'hui. Il y avait un personnage joué par Roméo Sarfati qui faisait son coming out, c'était dans les années 90, ça a permis des conversations. C'est la première série à aborder la notion de mariage pour tous. Le mariage pour tous était à peine voté, les auteurs l'avaient anticipé. Par contre, quand je vais sur des séries comme sur Canal+, moi je les cherche un peu, mais à tâtons les personnages LGBT, il n'y en a pas des masses.
Ouais, on est bien d'accord. Alors sur France.tv, et en l'occurrence c'est pas sur les chaînes hertziennes en tant que telles, mais c'est sur le site de France Télévisions, il y a deux séries. Il y en a une qui s'appelle Scam, qui parle de l'adolescence et qui évoque ces questions de genre et qui le fait extrêmement bien. On y reviendra dans un prochain épisode de Sériland. Et puis, je voulais vous parler quand même d'une autre série française qui s'appelle Les Engagés, qui est signée Sullivan Le Postec. J'aime beaucoup cette fiction. Alors, c'est des épisodes très courts, hein, qui font à peu près entre 10 et 12 minutes. J'aime cette fiction parce qu'elle parle d'engagement et de militantisme. On est avec Hicham, il a quitté sa famille et sa banlieue pour se réfugier chez Thibaut, qui est un militant au sein de l'association Point G. Et c'est intéressant parce que l'homosexualité est présentée comme un enjeu politique.
Pourquoi t'es parti de chez toi ?
Mes parents. Ils peuvent pas comprendre.
Et ils s'avoutaient ?
Non. La vie que t'as, toi. Hein. Tu te caches pas, t'es libre. Je sais pas si moi j'y arriverai un jour.
Tu sais, c'est pas vraiment de la liberté. Hein. C'est plutôt une bulle, quoi.
Romain Burel, est-ce que vous l'avez vu, Les Engagés ?
Ouais, c'est une exception totale dans un paysage audiovisuel français où on parle très peu de ces choses-là. Moi, je connais bien Sullivan, qui bosse excessivement bien, qui a vraiment envie de raconter des histoires politiques et militantes. Et le prisme est vraiment hyper ambitieux. Et avec cette volonté, en plus, dans le casting, de faire jouer des personnages LGBT par des personnes LGBT, notamment les rôles de transidentité, etc. De pas être dans ce qu'on peut voir parfois encore, c'est de voir des personnes cisgenres, c'est-à-dire qui ne sont pas concernées par la transidentité, piquer des rôles à des acteurs et des actrices transgenres qui n'ont déjà pas accès aux autres rôles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Mais j'ai envie de dire, c'est bien s'adresser directement à la jeunesse et qu'ils puissent regarder leur série sur iPhone et tout, mais n'oubliez pas que le pouvoir de la télévision, c'est aussi de pouvoir nous réunir autour de programmes diffusés à 20h50. Moi, la représentation et la représentativité, la visibilité, je veux aussi l'avoir à ces heures-là. Et puis, il y a une question de moyens aussi, c'est que ces séries-là, je trouve que les engagés, ils sont très très bien parce qu'ils sont très malins, etc.
Mais série autofinancée, il faut le préciser.
Autofinancée, ouais. et à budget constant, et à un moment donné, la première saison a été saluée dans des tas de festivals à travers le monde, j'ai envie de dire, mince quoi, mettez les moyens, donnez-nous des séries de qualité. On peut pas simplement s'exciter sur Euphoria et se dire qu'il y a justement des talents, il y a des histoires françaises à raconter et de les maintenir, j'ai envie de dire, dans une certaine dose de misérabilité pour faire ces séries-là, c'est pas normal.
Charlotte,
on a exactement le même problème que quand on commence à parler des femmes qui prennent le pouvoir sur des chaînes.
C'est-à-dire
que dès qu'on n'est pas la majorité visible, on a les plus petits budgets, la plus petite accessibilité. Oui, vous avez le droit d'exister, mais pas fort et là-bas dans le coin. Et ça, c'est la nouvelle chose qu'il faut changer. Finalement, c'est un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, où je ressens un manque sur les séries du câble, mais qui sont un peu plus cachées. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on ait une représentativité partout, pas seulement à droite ou à gauche. Mais effectivement, c'est très rabaissant, en fait. C'est très humiliant, c'est très vexant de se dire « on me laisse créer un projet ». Mais alors, vraiment, si je pouvais faire le moins de bruit possible, ça arrangerait tout le monde. Donc effectivement, comme dit Romain, il y a un moment, on sait où on tape fort. On sait sur quelle chaîne et on sait à quelle heure. Donc c'est ces portes-là qu'il faut ouvrir. On va pas continuer à avancer à bas bruit comme ça éternellement.
Et à s'excuser de faire
c'est
des
ridicule,
œuvres.
Ouais, bien
exactement.
Sûr.
Exactement.
Ah, quand même. Voilà les découvertes de Sériland.
Dernière partie de cet épisode de Sériland avec nos recommandations de la semaine, les séries incontournables, alors celles qui font l'actualité et que nous avons regardées pour vous notamment. Comme je suis une fille très très impolie, c'est moi qui vais commencer avant de vous redonner la parole, Charlotte et Romain. J'ai eu un immense coup de cœur pour une série historique sur Canal+, qui fait écho à l'actualité américaine. Ça s'appelle The Good Lord Bird. Nous sommes au milieu du 19e siècle, quelques temps avant la guerre de sécession. La série va retracer le destin de John Brown, qui était un abolitionniste américain, qui a appelé à l'insurrection armée pour abolir l'esclavage. Alors le personnage a vraiment existé et il a une particularité, c'est un illuminé total, un fou de Dieu, vraiment. Mais quand je dis un fou de Dieu, il va justifier toutes ses actions au nom de Jésus, il va passer des heures à prier, il cite la Bible à chaque instant.
Je fais ça moi aussi.
Je m'en doutais, Romain. C'est pour ça que j'ai pensé à vous en regardant cette série. Mais alors j'espère que c'est pas jusqu'à ce point-là, parce que Dieu le guide même dans ses choix les plus concrets, comme est-ce qu'il faut passer par la droite ou par la gauche pour attaquer les ennemis. Je vous propose un extrait de la bande-annonce pour mesurer l'ambiance de cette excellente série en 7 épisodes. Amen.
Votre esclave ne peut pas être ici. Cette voiture est réservée aux Blancs.
C'est ma fille.
Je m'appelle John Brown et je combats l'esclavage. Oui, le temps est venu d'affronter les esclavagistes dans le vacarme des armes et de la poudre.
De qui tenez-vous cette mission ?
Du Seigneur. Et vous êtes du côté des oppresseurs !
Se battre pour libérer les Noirs, c'est mettre sa tête dans la gueule du lion.
Charlotte, vous qui aimez les acteurs, John Brown est interprété par l'époustouflant Ethan Hawke, à l'origine d'ailleurs de la série, adaptée d'un livre de James McBride. Au-delà du côté historique que je trouve absolument passionnant, j'ai été envoûtée par un personnage qui amène une drôlerie considérable à la fiction. Il s'agit d'Echalote, alors on dit Onion en anglais. C'est un garçon noir dont le père a été tué par des esclavagistes et que John Brown va prendre sous son aile. Mais alors, pour des raisons complètement loufoques, il pense que Onion est une fille. Et le garçon qui s'appelait Henry devient Henrietta. Et ça va donner un côté très drôle à la série, en fait, avec un regard extrêmement intéressant sur le genre, sur l'identité. Mais alors, à la fois l'identité d'une personne, mais aussi l'identité d'une nation, parce que c'est de ça dont il s'agit dans The Good Lord Bird. Et puis la grande réussite, donc, c'est d'avoir su insuffler cet humour absolument inattendu dans une série historique de ce genre. Difficile de ne pas penser quand même au cinéma de Tarantino ou des frères Coen. Alors, à la fois dans la réalisation et dans le propos, avec cette petite pointe d'humour, voire de cynisme qui appuie là où ça fait mal. Et puis alors, Charlotte, j'ai pensé à vous. Autre qualité parmi tant d'autres, la musique. Morceau.
Il y a Pearl Jam ?
Non, il n'y a pas Pearl Jam, je suis désolée. Pearl Jam, le groupe préféré de Charlotte. Je ne sais même pas si le mot préféré n'est pas un euphémisme. Non, des morceaux qui sont merveilleusement bien choisis et qui débarquent souvent au moment des scènes les plus terribles, comme ce titre de Nina Simone, I Shall Be Released, au moment où 9 noirs sont pendus au milieu d'un petit village.
They say everything can be replaced. They say every distance is not near.
Charlotte, il n'y a pas que Pearl Jam dans la vie, il y a aussi Nina Simone, on est bien
non,
d'accord.
Mais oui, bien sûr, c'est une petite obsession que j'ai.
Mais oui. Et Claude Barzotti, on est d'accord, Romain Burel, The Good Lord Bird est à voir sur Canal+. Of every man who put me here. Charlotte Bloom, j'ai cru comprendre que vous étiez très 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 impatiente de découvrir cette série. Where do you see yourself in 5 years time? I'll be stinking rich. I want to learn everything. I just want to be happy. Excitation dans ce studio, parce que Charlotte n'a pas vu la série, elle m'a très envie de la voir, on va savoir de quoi il s'agit dans quelques instants, mais Romain, a priori, a déjà vu la série. Romain, vous ne dites rien.
Non
pas un mot.
Attends, fais voir quand même ton regard.
Ah, c'est extraordinaire.
Charlotte, de quoi il s'agit?
Il s'agit de la nouvelle série de Russell T. Davis qui nous a mis un uppercut déjà avec Years and Years. Et quand on parle de parler de la cause LGBT, d'avoir des personnages LGBT dans les séries, on parle toujours de Ryan Murphy.
Oui.
Mais en fait, il n'y a pas que Ryan Murphy, quoi. Il y a Russell T. Davis, déjà avec Horace Folk. Exactement, Bob and Rose. Voilà, c'est quelqu'un. Bien sûr. Banana. Tofu.
Voilà, on a des fans. On a des fans du réalisateur.
Non, mais c'est important parce que c'est vrai que Ryan Murphy est devenu un porte-drapeau, un porte-voix, mais il y a eu des gens avant lui qu'on travaillait. Russell T. Davis est arrivé quand c'était beaucoup moins facile. Non pas que ce soit facile encore aujourd'hui, mais en tout cas, il a débroussaillé l'affaire quand même. Hein. Et en plus de ça, c'est un virtuose de l'écriture. C'est quelqu'un qui écrit des personnages extraordinaires en 70 000 dimensions.
Charlotte, comment s'appelle la série? Parce qu'on l'a pas encore
It's
dit.
A Sin.
It's a Sin.
C'est un péché.
C'est un péché. Et est-ce que vous connaissez le pitch?
Oui, en fait, ça raconte l'émergence, la montée du sida en Angleterre et puis le rapport qu'a la communauté LGBT à qui on dit, en gros, c'est un virus qui est là pour vous tuer et qui va analyser cette idée de « il a été fabriqué pour vous tuer » et qui va parler de comment on vit, en fait, quand on a cette idée-là dans la tête, comment on continue à vivre, est-ce qu'on vit à l'excès? Est-ce qu'on se calme? Comment on voit sa communauté, etc. Alors, je dis ça sur la base d'un trailer.
Et Romain, est-ce que vous confirmez?
La série, c'est pas qu'elle est à la hauteur de la promesse, c'est qu'elle est vraiment dingue, vraiment. L'écriture est sublime, les dialogues sont magnifiques. Il y a un acteur qu'on avait déjà vu dans la série Skins, qui est un chanteur, surtout, qui s'appelle Holly Alexander, qui porte la série, qui est ultra charismatique. C'est quand même pas rien de se dire, je vais miser sur un chanteur pour aller porter cette série. Il est démentiel. C'est un 120 battements.
Battements par minute.
C'est l'équivalent de 120 battements par minute en Angleterre, mais j'ai envie de dire moins plombant par moment, parce qu'il y a aussi une fabuleuse énergie de vivre dans cette série. Il y a une BO de dingue, c'est-à-dire que si vous êtes passé à la côté des années 80 aussi, comme moi, vous êtes né plus tard.
Oh là là, il se la raconte.
Non, mais vous allez, c'est comme se faire balancer dans une machine à laver où on vous passe des tubes de Sylvester et de Frankie Goes to Hollywood pendant plusieurs épisodes. C'est génialissime à regarder. C'est absolument c'est la série la plus attendue 2021 pour moi.
Romain, on se connaissait pas, mais je commence un peu à vous cerner, surtout que maintenant, c'est le moment de ça.
Le crush de l'invité.
Excuse me. Oh, hey man, what's up? It's Benji from school.
I just wanted to interview for the barista job, but it's cool.
Lucky for you, I'm the assistant manager.
Come on back, let's talk.
Alors ça, c'est un extrait de la série qui est votre série coup de cœur, votre crush. C'est une série pour laquelle vous avez eu vraiment un coup de cœur. Elle n'est pas encore sortie en France, elle s'appelle Love, Victor, c'est ça?
Ouais, il y a le Covid, il y a le télétravail, on va pas bien, on boit un peu trop.
Décrivez la scène qu'on vient d'entendre.
Xanax, donc faites-vous du bien. Regardez Love Victor. Love Victor, c'est une série adaptée en fait d'un film qu'on a sûrement tous vu, qui s'appelait Love Simon, qui était sorti il y a 2-3 ans. Une histoire de coming out. Comme quoi, le coming out, même dans des familles un peu aisées, un peu progressistes, c'est difficile et c'est pas évident. Love Victor reprend un peu l'histoire. C'est un autre personnage qui s'appelle Victor, qui grandit dans une famille hispanique. Et c'est pas forcément facile de savoir qui on est et de dire qui on est quand on a 15 ans et de se situer et savoir si on est homosexuel ou autre chose. On peut hésiter entre les garçons et les
les filles, ça fait partie de votre histoire, vous n'avez pas besoin de savoir qui vous êtes depuis le départ, ça vous coûte de comprendre vos sentiments, vous vous posez plein de questions, vous êtes une espèce de machine à laver émotionnelle. C'est doudou, hein, c'est produit par Disney, c'est très très joli.
Ça a l'air romantique.
C'est très romantique, on a besoin de ça. Les personnes LGBT, elles n'ont pas besoin simplement d'histoires politiques et d'histoires qui font mal, de coming out, d'être jeté à la rue par ses parents. On a aussi besoin de savoir qu'on peut être amoureux au lycée, d'avoir des belles histoires, de ne pas se sentir jugé. Et cette série-là, elle raconte ça. Elle raconte aussi des choses beaucoup plus fines, comment se trouver... voilà, il y a une pression d'être queer aujourd'hui et comment on y répond. Est-ce qu'on est obligé de rentrer là-dedans? Est-ce qu'on ne peut pas trouver sa propre voie, etc., écrire sa propre histoire, juste parce qu'en fait, on est à tomber amoureux d'un garçon qui est sublime, mais il se trouve qu'il a déjà un mec, bordel.
Ils sont très beaux tous les deux, hein, dans le trailer, en tout cas, hein, je trouve. Les personnages.
Ils sont magnifiques. Michael Cimino, qui est l'acteur qui joue le rôle, est absolument magnifique. Il a ce défaut d'être hétérosexuel.
Ça va décevoir plein de gens. Vous êtes bête, Romain Burel.
Mais en fait, il est vraiment extra.
Bon, allez, on vous réinvitera quand même pour venir parler de tout ça. Charlotte Blum, merci infiniment d'être venue nous faire partager votre enthousiasme, notamment pour Euphoria. Série Landais, votre maison, hein, vous le savez. On vous retrouve sur la chaîne OCS avec votre émission Story Series que je recommande grandement.
Merci Eva.
Et merci beaucoup Romain Burel d'avoir accepté notre invitation. Filez dans les kiosques que pour vous procurer Têtu. Et le magazine d'ailleurs vient de fêter ses 25 ans, ça aussi ça se souhaite. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros de série, alors en l'occurrence une héroïne, Clara, donc Clara Scheller. A priori, il n'y a rien de plus triste que de trinquer avec de l'eau. Ah bah si, le truc encore pire, c'est de trinquer avec deux eaux différentes. Dans le prochain épisode de Série Londres, je vous propose de changer radicalement d'univers grâce à un grand entretien avec un scénariste, réalisateur et producteur de talent, Alain Capoff. On lui doit Scène de ménage, Kaamelott, En famille ou encore Caméra Café, un homme très rare dans les médias qui a accepté de venir nous parler de son métier. Série Londres est un podcast Europe 1 Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec mes sérivores Clémence Olivier, Charlotte Blum, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, ben le prochain vous séduira, c'est certain. Restez à l'écoute et puis surtout, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez même nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast et vous n'imaginez pas à quel point ça nous rend heureux d'avoir plein de petites étoiles. Le groupe Facebook de Série Land est là pour vous aussi et nous sommes désormais disponibles sur Deezer. Attention, dans Série Land, la règle ne change pas. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.